Alors, nous passons au dernier groupe, dixième groupe, sur la thématique de se reconstruire avec quelques leçons comparatives que a dirigé Richard Reichmann. Donc, Richard est directeur de recherche à l'École de hautes études en sciences sociales et il est à la fois psychiatre et anthropologue. Et parmi ses récents ouvrages, il a écrit bon, « L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime » en 2007, voilà, avec Didier Fassin, voilà, qui était mon prof. Merci.
Merci beaucoup de me passer la parole. J'imagine que pour vous, c'est un peu épuisant de devoir encore écouter un dernier orateur. Qui va faire comme les autres, c'est-à-dire remercier les organisateurs de m'avoir invité à cela et de nous avoir proposé de tels échanges et surtout de ne pas nous avoir dit aussi clairement la charge de travail qui nous incombait. Je m'étonne d'ailleurs que mes prédécesseurs ne l'aient pas mentionné puisque nous découvrions au fur et à mesure qu'il y en avait encore plus à faire. Mais c'est ça l'esprit de la recherche, nous découvrons systématiquement et j'en suis ravi parce que c'est une opportunité quand même très intéressante qui nous est offerte là, d'avoir cette possibilité de dialoguer les uns avec les autres et aussi de voir des thématiques qui se croisent, tu l'as dit très justement, nous allons travailler sur des objets qui sont, tout en étant différents, sont très complémentaires et qui vont nous permettre, je pense, d'avancer. Alors, par rapport à cela, le groupe que nous avons constitué est un groupe assez homogène. Nous avons fait le choix de choisir précisément des gens qui travaillent à peu près dans la même direction, même s'ils travaillent sur des thématiques différentes ou sur des pays différents, histoire de répondre à la question qui nous était posée, à savoir l'objet. Hein. Michel l'a redit tout à l'heure, il faut que vous travailliez sur l'objet sortir de la violence. Et, d'accord. Sauf que ce n'est pas un objet comme ça. Et que d'abord, le premier temps, c'est essayer de penser ce que c'est que cet objet et comment on le construit. Alors moi, je ne savais pas à l'origine comment nous allions essayer de construire cet objet qui serait la sortie de la violence. Et finalement, une idée toute simple nous est venue, qui va dans la suite de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'est la sortie de la violence, tout au moins peut-être qu'à la fin du programme on le saura. On peut peut-être comprendre quels sont les processus mis en place pour tenter d'acter la sortie de la violence. Et je serai très précis là-dessus, puisque ce qui nous importe, c'est les processus mis en place qui sont censés, à un moment historique donné, acter la sortie de la violence. Qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas pour le moment, d'autres en jugeront. Alors par rapport à cela, effectivement, il y a trois thèmes qui sont prioritaires. Et malheureusement, ce n'est pas le mien, c'est ceux qui viennent d'être énoncés. Trois modalités de prendre acte de la sortie de la violence. La première, c'est bien évidemment la démobilisation. Parce que s'il y a cela, ça acte quelque chose. La deuxième, c'est la justice, forcément. Et la troisième, finalement, c'est la mémoire. Donc ces trois temps forts collectifs de l'espace social actent une sortie de la violence. Alors ça marcherait bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'il se trouve, et tu le disais très justement, qu'un certain nombre d'acteurs, ne s'y résolvent pas complètement. Et ils ne sont pas contents des modalités dont ça se fait. Et dans les tribunaux, ils se plaignent, ils n'ont pas été entendus. Et ailleurs, ils sont retraumatisés ou sous-traumatisés ou je ne sais trop quoi. C'est-à-dire qu'il y a un quatrième temps essentiel, me semble-t-il, qui est celui qui va être accordé à l'individu et donc de la reconstruction d'un soi. La reconstruction de soi devient le quatrième terme essentiel d'une dimension collective à une dimension individuelle qui va être le dernier processus, mais qui accompagne tous les autres, de ce moment d'une scansion où, effectivement, quelque chose de la fin du conflit ou de la fin de la violence peut être acté. Alors, ça a l'air d'aller de soi quand on le dit. Pourtant, c'est surprenant. Parce que imaginez que, finalement, on aille chercher dans l'individu les modalités d'une reconstruction de soi qui, généralement, alors il n'y a pas beaucoup de psychiatres dans la salle, mais moi je le suis par ailleurs, généralement c'est laissé au fou, c'est-à-dire pas une valeur vraiment très puissante de la normalité. Et bien donc, c'est là les deux phénomènes qu'il nous faut d'abord envisager pour pouvoir comprendre cette transformation majeure, c'est le changement de statut et de l'individu social et d'un certain nombre de catégories qui viennent du champ de la psychologie, voire du champ de la psychiatrie, et qui vont qualifier un processus normal, c'est-à-dire de dépathologiser quelque chose qui, jusqu'alors, était considéré comme pathologique, à savoir que ça soit le traumatisme, la résilience, le fait d'avoir été victime de violence, quelle qu'elle soit. Et c'est la configuration, nous semble-t-il, qui permet de définir cet objet comment ces processus qui vont avoir pour fonction d'opérer sur la reconstruction de soi vont être mis en place dans des dispositifs que nous nous proposons d'étudier. Donc ce que l'on va faire, c'est d'étudier les différents dispositifs qui permettent cette opération de reconstruction sur soi, sans préjuger bien évidemment de la réalité de cette opération, de savoir si ça transforme les gens, s'ils sont vraiment victimes, traumatisés, pas traumatisés. On ne pourra pas le savoir et l'enjeu n'est pas celui-ci, bien évidemment. C'est d'essayer d'analyser aussi les processus de normativité que ça met en place dans un espace social qui se ressentent sur un individu psychologique doté de psychisme, c'est-à-dire que ses émotions, ses douleurs, ses souffrances comptent parfois plus que ses raisonnements. C'est cette dimension-là qu'il caractérise comme un sujet de l'action et probablement comme le sujet des politiques publiques sur lesquelles nous allons, j'espère, travailler ensemble. Donc nous avons distingué deux types de dispositifs, trois axes, trois perspectives, deux dispositifs que nous allons analyser et une autre modalité de le mettre en scène. Les deux dispositifs sont des dispositifs qui aujourd'hui se développent un peu partout sur les terrains de post-conflit pour justement contribuer à cette reconstruction d'un soi, d'un self. Il y a ceux qui sont centrés sur l'individu, donc à travers le traumatisme, à travers la résilience, à travers les violences sexuelles, à travers les enfantements forcés, à travers les enfants soldats, où on voit qu'il y a là des dispositifs qui prennent en charge, comme tu le disais, qui viennent prendre des méthodes qu'on n'aurait pas imaginées, alcooliques anonymes pour des anciens bourreaux, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette reconstruction de soi, victimes et bourreaux sont systématiquement associés. Parfois, ils sont même mis dans les mêmes groupes pour justement recréer cette unité, ou dans des groupes dissociés, mais d'une certaine manière, ce qui est important de souligner là, c'est que la reconstruction touchera tout le monde, tous ceux qui ont été traversés par la violence, qu'elle ait été agie ou qu'elle ait été subie. C'est le même processus de reconstruction d'un soi qui va produire une nouvelle forme de normativité, une normativité psychologique sur laquelle nous reviendrons par la suite. Donc premier dispositif, ceux qui sont centrés autour du traumatisme, autour des réfugiés. Alors on est un certain nombre de chercheurs à déjà travaillé là-dessus. Je peux citer Émilie qui a travaillé sur les enfants soldats et qui travaille sur les réfugiés à Londres. L'autre qui vient de nous quitter, mais qui vient du Danemark et qui travaille aussi sur les réfugiés au Danemark et qui a travaillé sur les Palestiniens victimes de violences et la façon dont ils avaient de poser leur conditions de victimes ou de non-victimes. Donc première étape, les dispositifs centrés sur l'individu souffrant, si vous voulez. Deuxième dimension d'autres dispositifs qui, nous semble-t-il, relève de cette même dimension d'une restructuration d'un soi, mais qui ne passe pas par l'individu, qui passe par le rapport aux morts. C'est-à-dire que l'on sait que dans les expériences de violence extrême, il y a un enjeu sur le mort, un enjeu sur le cadavre. Pour le dire vite, vous le savez aussi bien que moi, l'altérité radicale de l'homme, ce n'est pas l'animal, c'est le cadavre, le corps déchu, le corps jeté. Et on voit se mettre en place toute une série de dispositifs d'exhumation, de récupération des corps, de secondes funérailles qui ont non seulement un intérêt pour l'espace social en général, mais qui sont pensés de plus en plus comme des moyens de ressouder quelque chose de la communauté par le biais d'un lien subjectif, pour le coup, entre les descendants et leurs défunts. Donc de réinscrire le monde des corps morts dans le champ des défunts. Donc voilà les deux dispositifs que nous voulons étudier. Alors nous avons la chance là d'avoir des gens très qualifiés pour ça, puisque Valérie Romain, qui travaille précisément sur les exhumations au Pérou, et puis Clara Anne, qui vient de Baltimore, qui elle travaille sur ce qu'on appelle les échos de la mort, comment la mort bouleverse un écosystème dans un voisinage, nous permettront de dresser un panorama de l'effet de ces dispositifs sur les nouvelles normativités et sur ce qu'on appelle des effets de subjectivation. Ça n'aurait de sens là, ça ne peut pas s'arrêter là, il faut une troisième perspective, me semble-t-il, j'en termine avec celle-ci, qui est celle de la dimension critique, parce que bien évidemment, les acteurs ne répondent pas aussi bien et aussi facilement à ces dispositifs. Au contraire, on pourrait dire, et nous allons bien sûr analyser les modalités de résistance, les modalités de contournement à ces nouvelles formes de normativité qui imposent une certaine règle à la sortie de la violence et qui, tout en étant des réactions, n'en seront pas moins des modes de subjectivation de l'expérience première. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour essayer de dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien », mais d'essayer de comprendre comment ces mécanismes induisent d'autres mécanismes qui eux-mêmes ont pour résultante des modes de subjectivation tout à fait différentes de la catégorie de victime, du traumatisé. On peut être victime un jour, traumatisé le lendemain, on peut être une pluralité, et d'accepter l'idée de ces subjectivations sociales, exclusivement, on les prend exclusivement en termes sociaux, de leur effet autour de ces processus qui viennent acter la fin des conflits. Je vous remercie de votre attention.